Mépriser la forêt en la considérant comme un vulgaire stock de matières premières, une usine à bois, ça suffit! Parce que les discours vertueux sur la gestion durable, la multifonctionnalité, la biodiversité, alors que toutes les décisions concourent à la standardisation et à l'industrialisation de la forêt, ça suffit! Parce que le mépris des personnels, de droit privé, de droit public, administratif, ouvrier, technique, ça suffit! Parce que l'agressivité, la brutalité, la répression croissante contre les personnels de tout statut, ça suffit! Alors, pour en finir avec leur politique, ensemble, sachons dire haut et fort, ça suffit! Nous sommes venus le dire aujourd'hui à Paris, parce que c'est ici que se situent les lieux de pouvoir, dans ces quartiers, Assemblée nationale, ministère de l'Environnement, Sénat, ministère de l'Agriculture, juste derrière nous, c'est bien ici que se décide le sort de la forêt, de son service public, de notre sort à tous. Aujourd'hui, nous sommes 1 000 000 de personnels de l'ONF, techniques, ouvriers, administratifs, citoyens, ensemble pour le dire, pour défendre la forêt et les métiers que nous aimons, pour dénoncer les dérives de sa gestion, pour affirmer le besoin d'un service public forestier, pour faire gagner nos idées et nos revendications, pour dire haut et fort que pour tout ça, tous ensemble, nous allons résister!
À la défense des forêts publiques. Une émission de Radio Zinzine. Il est 10h le matin, le 14 décembre 2017, et la manifestation organisée par l'intersyndicale de l'ONF va bientôt démarrer.
Alors, ce n'est pas tous les jours que beaucoup de monde de l'ONF monte à Paris. Alors, pourquoi ce besoin de monter actuellement? Qu'est-ce qui vous pousse à ça? Déjà, peut-être vous pouvez vous présenter.
Oui, Philippe Canal, donc secrétaire général du SNUPEN Solidaire, le premier syndicat de l'ONF. Mais enfin, aujourd'hui, on a un intersyndical très large, public et privé. Et c'est une première à l'ONF que le secteur public et privé de l'ONF soit en action ensemble.
Et qu'est-ce que vous inquiète particulièrement actuellement? Je vois pas mal d'affiches, par exemple, le forêt, c'est pas que des mètres cubes. Qu'est-ce que c'est qui vous inquiète particulièrement avec le tournure que prend la gestion des forêts publiques?
Industrialisation de la gestion et privatisation de l'ONF, c'est-à-dire fin du service public. Et donc, ce qu'on ressent aujourd'hui dans les orientations de notre direction, c'est l'abandon des fonctions sociales et environnementales de la forêt.
Ce qu'on appelle souvent le multifonctionnalité.
Oui, oui, il y a tout un discours vertueux, mais dans les actes, il est clair que c'est production, répondre à la demande d'une filière et transformer la forêt en usine à bois.
Est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus de demandes, justement, pression sur le filière bois, actuellement quoi?
Oui, la filière bois, soumise déjà à la concurrence internationale et de plus en plus demandeuse de volume. Et puis surtout, ce qu'on s'en vantait, c'est quand même le sujet du bois énergie. Hein. Manifestement, notre société n'a pas décidé de changer de mode de développement. Et à partir de là, On en est à penser que la forêt pourrait remplacer les autres énergies. Ce n'est pas du tout le cas. On fait déjà quelque chose du bois. On en fait souvent quelque chose de mieux qui est le bois d'œuvre, qui lui stocke du carbone dans une deuxième vie de l'arbre. Et cette pression sur le bois énergie, on l'a sent monter très fort.
On a vu aussi un pancarte, plus de forestiers, moins de technocrates. C'est un problème, ça?
Oui, ça correspond à une réalité. L'Office national des forêts, longtemps, 2/3 des effectifs, c'était des gardes forestiers. Donc de la présence sur le terrain, du soin, de la protection apportée à la forêt. Dans un cadre d'exploitation, il n'y a pas de tabou, mais voilà, de la présence et de la protection du service public aux usagers. Aujourd'hui, les gardes forestiers ne représentent même plus la moitié des effectifs de l'ONF, qui au passage ont perdu un quart de leurs effectifs sur les 15 dernières années.
Il y a aussi malheureusement des pertes parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Il faut peut-être quand même dire qu'il y a eu des suicides, il y a des gens qui dépriment, parce qu'ils sont poussés à faire des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord.
On a une culture très forte de service public, une éthique de gestion. Je veux dire, les forestiers sont en général passionnés. Et c'est vrai qu'on ne se retrouve plus dans les orientations politiques telles qu'elles sont définies par rapport à la forêt. Nous, on est venu protéger la forêt, faire de la belle forêt, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est tout à fait autre chose, c'est faire du chiffre, c'est d'être de plus en plus dans un raisonnement d'entreprise. Ce n'est pas notre culture, et de tout ça découle une souffrance qui, par ailleurs, peut être liée aussi aux problèmes de charge de travail, mais surtout de perte de sens par rapport à nos métiers et ce que nous on est venu faire dans le service public forestier.
Qu'est-ce que vous espérez d'aujourd'hui? Il y a donc évidemment la manifestation qui va durer une ou deux heures, mais après vous avez des rendez-vous, je crois.
Oui, il y a des délégations qui seront reçues à l'Assemblée, au Sénat et donc au ministère de l'Agriculture et donc de l'Environnement. Ce qu'on espère aujourd'hui, de toute manière, c'était bien leur montrer que nous, les représentants du personnel, les syndicats, on représente effectivement les personnels. Les personnels sont là aujourd'hui en nombre. C'est une histoire de crédibilité, de légitimité. Après, ma foi, nous, on mène le débat d'idées, mais on se doute que, de toute manière, tout ça passera par un rapport de force plus large. Pour nous, c'est un début aujourd'hui, un rapport de force plus large à l'ONF en interne, mais aussi à l'externe, avec les citoyens, les élus, les communes forestières, parce qu'aujourd'hui, c'est plus une histoire de suppression de postes, une histoire de pseudo-modernisation. Non, c'est une histoire qu'on a décidé d'en finir avec le service public forestier pour livrer les forêts publiques aux appétits des industriels.
En gros, vous dites qu'il faut voir tout ça comme une question sociétale presque, qu'il faut que... au-delà de la profession des forestiers, etc., que les citoyens doivent s'intéresser et comprendre ce qui se passe.
Oui, pour nous, il y a un problème de déni de démocratie. Aujourd'hui, si on décide que les forêts publiques, qui sont un bien commun, au même titre que toutes les forêts, soient livrées aux appétits des industriels, sans aucun contrôle, sans aucun garde-fou, ça nécessite un débat de société qui n'a pas lieu. Et donc un déni de démocratie. Et nous, on perçoit bien que de toute manière, c'est qu'avec les citoyens et les associations qu'on amènera justement ce débat démocratique et les arbitrages que nous, on cherche favorables à la protection de la forêt avant tout.
Merci. Alors Carole, toi tu travailles à l'ONF, dans le Jura, je crois, non?
Oui,
qu'est-ce qui t'amène ici en fait pour participer? C'est quoi que tu vois vraiment comme problématique actuellement dans l'évolution de l'ONF?
Moi ce qui m'inquiète le plus, c'est le devenir de la forêt. C'est le devenir de la forêt. Plus que les personnels, c'est le devenir de la forêt. Donc avec des prélèvements qui s'intensifient... Une négation de la biodiversité, enfin un affichage de la biodiversité plutôt, et avec des forêts vitrines et puis Et puis ce qu'on prélève partout. J'ai d'ailleurs appris que du bois du Jura allait à Gardanne. Hein. Tiens, bon, après ça, quand on vend du bois, on n'a pas la maîtrise de ce que les acheteurs en font derrière, ça c'est clair. Hein. Mais c'est une réalité, quoi, malgré tout.
Toi, tu es agent de terrain, non ? Ça veut dire, en fait, c'est quoi ton boulot précisément ?
Boulot, bah, moi, j'ai en charge 9 forêts communales. Donc, la gestion de 9 forêts communales. Donc, voilà.
Et quelle autonomie tu as vraiment dans la décision ? Maintenant, il y a des pressions qui arrivent pour dire qu'il faut...
La chance qu'on a, c'est que le propriétaire, c'est la commune. C'est par rapport à une forêt domaniale. Et donc, on peut se permettre de montrer la réalité des choses en allant des fois sur le terrain avec les élus, ce qui est important, et de leur faire voir les choses concrètement, quoi. Donc, par rapport au plan d'aménagement qu'on a, effectivement, on essaye de le suivre. De toute façon, ça c'est peut-être ce qui est le plus problématique, c'est les plans d'aménagement. Parce qu'ils sont faits maintenant de telle sorte qu'on réduit le diamètre d'exploitabilité, les passages en coupe sont raccourcis aussi.
Pardon, c'est important ce que tu viens de dire, mais c'est peut-être pas compréhensible pour tout le monde. Ça veut dire qu'en fait, on va couper les arbres beaucoup moins matures, plus jeunes, non ?
Ben oui, c'est ça. Hein. C'est un chêne qu'on menait jusqu'à 150-200 ans, ce sera... 120 par exemple. Enfin, après, ces chiffres-là sont pris au hasard. Hein. Mais pareil pour les résineux, c'est pour tout comme ça, quoi. Donc ça, c'est grave, quoi.
J'aimerais comprendre jusqu'à quel point tu as une autonomie par rapport à la direction de l'ONF, si tu as envie vraiment. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres zones où en fait l'ONF parle peu avec les communes. Finalement, les communes donnent la gestion. Ils ne comprennent pas grand-chose de la forêt et on laisse faire, en gros. Et on fait une sorte de confiance et parfois, il y a des choses malheureuses qui se font et les citoyens, ils n'ont aucun moyen, en fait, de savoir ce qui se fait. Mais là, toi, c'est un peu une démarche que toi ou peut-être d'autres peuvent avoir.
Après, le Jura, enfin, et encore pas tout le Jura, mais à partir du premier plateau, il y a une forte identité. Les gens sont très attachés à leur forêt. Les gens ont toujours fait de la fouage et sont très impliqués. Quand vous avez un conseil municipal, vous avez forcément une commission bois, où les gens viennent sur le terrain de façon volontaire, ils partagent le bois et ils s'intéressent à ça. Et du coup, c'est très vrai, je le dis, sur le premier plateau, le deuxième plateau du Jura, un peu moins en Bresse jurassienne, où les gens, bon, à vrai dire, pourvu qu'ils fassent un peu de bois de chauffage, le reste, ils s'en fichent un peu. Mais, et donc, ils s'informent peut-être pas assez, mais... Et c'est vrai qu'on peut faire passer auprès de ces gens-là tout un tas de choses sans qu'ils fassent vraiment attention. Et c'est vrai que c'est délicat comme situation parce que j'ai envie de dire tout dépend de l'agent qu'ils ont en face, quoi, de la personne qui est volontaire ou pas. Enfin, moi, je sais qu'à titre personnel, je replante pas mal de fruitiers sauvages parce que je trouve qu'il y a un déficit de fruitiers sauvages que j'élève chez moi et que je remets en forêt. Je pars à partir d'un semis naturel et j'en remets partout où je peux, quoi, partout. Donc, c'est peut-être le film de Giono, enfin le livre de Giono que j'ai en tête là, quelque part, mais enfin, c'est un peu ça. Mais bon, la marge de manœuvre, tout à l'heure, j'ai parlé de l'aménagement forestier, c'est un peu ça, quoi. C'est ça qui nous bloque. Après, l'aménagement forestier, c'est un guide de travail. On n'est pas obligé de le suivre à la lettre. C'est quand même bien d'avoir ce guide de travail et de le suivre. On est d'accord. Mais de toute façon, des fois, les aléas climatiques nous prouvent qu'on ne peut pas suivre complètement cet aménagement. Il suffit qu'il y ait une tempête pour que tout soit remis à plat. Hein. Donc, mais voilà. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'on peut des fois... moi, ça m'est arrivé, par exemple, sur une commune où l'aménagement prévoyait une plantation de chêne rouge d'Amérique. On sait que c'est une essence envahissante. Et quand les épicéas qui étaient sur cette parcelle sont arrivés, ont commencé à dépérir et qu'il a fallu les raser, pour le coup, ben, je suis partie sur une autre essence de plantation. Je n'ai pas mis de chêne rouge d'Amérique. Quoi. J'ai mis tout à fait autre chose, du feuillu, parce que c'était une forêt très enrésinée. Et donc, c'est passé. Quoi. C'est passé au sein aussi de ma hiérarchie qui trouvait que c'était pas plus mal. Quoi. Donc voilà, mais après, il faut avoir envie. Quoi.
Alors, juste pour conclure, c'est quand même... je trouve assez réussie cette manifestation. Ça n'arrive pas tous les jours que bon, ça fait beaucoup de bruit, mais il y a beaucoup de monde et que tout d'un coup, il y a beaucoup de pancartes que je trouve très bien. Donc, on dirait que ça s'étend, quoi. L'inquiétude qui est quand même chez quelques-uns à l'ONF depuis quelques années. Il y a beaucoup de souffrance, mais ça commence. Comment tu trouves ?
Je ne sais pas si je dois le dire ça, mais moi je trouve qu'à l'ONF on est 9000, là on est peut-être 1000, on devrait être 5000 là. On devrait être 5000 quoi. Et il y a tout le personnel administratif, on ne voit quasi pas d'administrative. C'est celle qui va être les premières touchées, puisqu'il y a beaucoup de femmes, quand il va y avoir des restructurations et tout. On le voit déjà nous, hein, je veux dire, il y a quelques années quand une secrétaire était malade, les autres arrivaient à compenser, à faire le travail. Maintenant quand il y en a une qui est malade, le boulot il se fait plus et c'est terrible quoi. Et ça se voit, nous on le sent, hein, tout est bloqué. Et là on voit aussi qu'ils commencent à toucher au personnel de terrain en plaçant des gens qui sont pas assermentés. C'est grave ça, quelque part. Ça veut dire que des gens ils martèlent, ils sont pas assermentés, ils peuvent pas faire des missions de police, ils sont pas assermentés. Enfin, on sent vraiment, on voit vraiment où est-ce qu'on veut aller, quoi. Et on sent que c'est la privatisation qui se profile. Hein. De toute façon, c'est clair. Hein.
Merci beaucoup. Alors, vous êtes donc de la CGT ?
Alors, moi, je suis Monsieur Demange Dimitri, secrétaire national de la CGT Forêt. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on fait une grande manifestation intersyndicale donc, qui regroupe l'ensemble des organisations syndicales de l'établissement Office National des Forêts pour contrecarrer les projets du gouvernement de privatisation du service forestier en tant que service public. Et donc voilà, il y a environ un millier de salariés sur les 9000 de l'établissement qui sont aujourd'hui à Paris, en sachant qu'il y a une partie des personnels qui sont aussi en grève dans les DOM-TOM et dans d'autres structures régionales, agences, directions territoriales qui n'ont pas pu venir aujourd'hui.
D'accord. Avant, vous avez fait un petit discours et c'était intéressé par quelques éléments, notamment par le fait que, semble-t-il, dans la gouvernance de l'ONF, des instances style MEDEF prennent de plus en plus d'importance.
Alors on a un problème, c'est que l'ONF est un EPIC, hein, donc un établissement public à caractère industriel et commercial, et on a un conseil d'administration où il y a 30 membres, dont une personne qui représente la Fédération nationale du bois, qui est en fait le patronat de l'industrie de transformation du bois des scieurs, qui est lui-même client de l'établissement. Donc pour nous, il y a un conflit d'intérêts. On pense que c'est antinomique avec le rôle de l'Office national de la forêt, puisque nous on gère la forêt publique, donc la forêt qui appartient à l'ensemble des citoyens, que les forêts soient de l'État, donc domaniales ou des collectivités. Et on ne trouve pas normal qu'un de nos propres clients donne des directives, passe au vote et en fait participe aux orientations, au choix des orientations dans l'établissement public. Alors que pour nous, l'ONF doit être un service public au service des citoyens, c'est-à-dire gérer l'environnement forestier pour répondre aux besoins des citoyens, que ce soit en énergie, en bois de construction, mais aussi en protection de l'environnement, en protection des milieux, protection des sols. On protège aussi la ressource en eau parce que on gère l'ensemble des bassins versants des grands fleuves. Et si ces bassins-là sont pollués par trop d'exploitation forestière, des pollutions chimiques ou minérales, on va altérer la qualité des sols. Donc nous, pour réaliser tous ces travaux, on a besoin de fonctionnaires d'État parce que le statut général de la fonction publique ne protège pas uniquement les salariés de l'ONF ou les fonctionnaires, il protège aussi les citoyens, les citoyennes usagers de la forêt publique parce qu'on leur doit quelque chose, on doit leur rendre... Ces forêts-là, elles appartiennent à tous les citoyens et toutes les citoyennes. On doit les garder dans un état préservé, on doit étudier ce milieu-là. Et dire uniquement maintenant, ce gouvernement comme les précédents, il n'y a que la rentabilité financière de la forêt qui compte, c'est impossible. On ne doit pas parler de rentabilité de la forêt. La forêt, c'est un patrimoine pour l'ensemble des Français et des Françaises, pour nous.
Il semble que, enfin, depuis quelque temps, il y a des mouvements qui se créent en France qui s'appellent la SOS Forêt, par exemple dans certaines zones en France, Il y a de plus en plus de conscience, quelque part, qu'il y a des problèmes. En fait, notamment l'industrialisation de la gestion de la forêt et notamment l'arrivée, par exemple, à grande échelle du bois énergie, par exemple. Donc vous, vous sentez en tant que CGT Forêt, enfin les gens qui travaillent dans nos forêts, une pression croissante?
Alors tout à fait. La pression, elle existe depuis très longtemps, puisque depuis 2001, on signe des contrats d'objectifs et de performance, c'est-à-dire que l'État demande à l'établissement un certain nombre de millions de mètres cubes de bois à récolter par an, avec naturellement aussi une clause financière. Et donc ça, ça passe en premier au lieu de... Alors que ça, normalement, la récolte de bois à l'Office national des forêts, c'est une récolte indirecte. Alors naturellement, ça fait vivre en partie l'établissement, mais l'État aussi se désengage du financement de la préservation de ses forêts publiques. Il faut savoir que l'État ne finance que 140 millions d'euros dans le budget de l'ONF, qui est environ 860 millions d'euros. Et 860 millions d'euros dans le budget de l'État, c'est rien du tout. Pour gérer seulement 25% des forêts. Nous, on dit à la CGT, si l'ONF gérait l'ensemble des forêts françaises, qu'elles soient privées ou publiques, avec entre 4 et 5 milliards d'euros en euros constants, on peut gérer l'ensemble de la forêt française, c'est 30% de la surface du territoire. Donc c'est vraiment très très faible ce qu'on demande. Et donc nous, on ne comprend pas qu'on continue à dire on va supprimer des emplois de fonctionnaires alors qu'on a besoin de ces emplois-là pour gérer correctement la forêt.
Mais oui, parce qu'il y a par exemple, j'ai vu un des nombreux, il faut dire, il y a des très jolies pancartes avec, oui, avec plein de paroles, mais oui, par exemple, il y avait un qui disait « la forêt, ce n'est pas uniquement des mètres cubes de bois ».
Donc effectivement, pour nous, la forêt, ce n'est pas que des mètres cubes. Moi, par exemple, j'ai 10% de mon temps de travail où je travaille à étudier l'avifaune, donc les oiseaux protégés en forêt. Et j'ai pu me spécialiser dans l'étude de la cigogne noire, qui est une espèce très rare en France, nicheuse. Et par exemple, cette année, en Lorraine, j'ai pu baguer 17 cigognes noires. Et j'ai travaillé aussi avec d'autres scientifiques, avec le ministère de l'Environnement, à mettre une balise sur un oiseau pour étudier son espace vital, pour étudier les endroits, les ruisseaux où elle va manger. Et donc, ça nous permet de préserver aussi l'ensemble de l'environnement que cet oiseau, par exemple, va parcourir. Donc pour moi, ça, c'est du service public. On ne peut pas donner ça à des entreprises qui vont vouloir rentabiliser ça. C'est de la recherche fondamentale. Il faut qu'on continue ces recherches fondamentales pour préserver notre environnement, l'environnement qui appartient à tous les citoyens et toutes les citoyennes. Donc c'est pour ça qu'on manifeste également. Nous, on ne veut pas uniquement produire des kilo-euros. Naturellement, qu'il y a besoin d'un minimum de création de richesse avec la vente de bois. Mais ça ne doit pas être l'objectif principal de l'établissement ONF. Ça doit être quand même la gestion durable de la forêt française. Et donc nous, on se bat tous les jours pour continuer dans cette direction-là. Malheureusement, le gouvernement actuel a prévu, avec ce qu'il appelle la CAP 2022, la privatisation de l'ensemble des services publics, et c'est écrit en toutes lettres, par rapport à l'ONF. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, la gestion de la forêt communale qui pourrait être mise en concurrence, l'ONF serait mis en concurrence avec des entreprises privées pour gérer les forêts publiques, ça, on ne peut pas accepter ça. Parce que les entreprises, malheureusement, leur objectif, c'est faire de la plus-value, du profit à court terme. La forêt, pour faire pousser un arbre, c'est entre un siècle et trois siècles. Un chêne qui a 300 ans, bah, une entreprise privée, ça ne va pas l'intéresser. Elle va dire à la commune, planter des résineux qu'on récoltera dans 40 ans, parce que la plus-value, on va la faire dans 40 ans. Donc on se bat contre ça.
Il y a aussi quelque chose qu'on appelle l'hiérarchie des usages du bois. C'est-à-dire que moi, ce que je ne comprends pas en France, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de subventions, de soutien, oui, pour le bois énergie. Par exemple, moi, je suis pas loin de Gardanne, donc oui, 70 millions d'euros chaque année pendant 20 ans, donc ça fait 1,4
milliard
pour brûler du bois à 30% d'énergie.
Alors nous,
Je bois d'œuvre qui peut créer beaucoup plus d'emplois, etc. On ne soutient pas.
Alors moi, je suis aussi contre ça, en tout cas la CGT Forêt, et contre... ce genre de centrale, parce que si on fait le vrai bilan carbone d'un établissement comme ça, souvent, qu'est-ce qui se passe-t-il? On va chercher du bois sur un grand rayon d'approvisionnement, donc on va brûler énormément de carburant fossile avec des camions qui vont ramener le bois sur place pour produire, et en fait, on va certainement dépenser plus d'énergie fossile. Le bilan carbone est négatif sur une chose comme ça.
Dernière question pour le moment. Il semble qu'il y a quand même des collègues à l'ONF qui sont inculpés ou qui sont embêtés par la justice actuellement. Alors, ça, il s'agit de quoi?
Alors, moi, je fais partie effectivement justement de ces personnages, hein, parce que forcément, on a des mandats syndicaux. Donc là, très franchement, ce gouvernement, avec la Direction générale de l'Office national des forêts, a décidé de passer à l'offensive contre les syndicats, notamment la CGT Forêt, parce qu'on dénonce simplement la vérité, notamment sur ce que je vous ai dit, sur les conflits d'intérêts qu'on peut avoir avec des entreprises qui sont clientes. Et moi on a dit aux forces de l'ordre, c'est pas un secret d'État, prenez les PV du conseil d'administration de l'ONF, monsieur Siad, qui est le plus gros scieur d'Alsace, est quand même bien vice-président du conseil d'administration de l'ONF. C'est pas normal. Simplement. Et après, on ne rentre pas dans les procédures je ne peux absolument pas vous les divulguer, hein, parce qu'après, je me mettrai en danger. Mais c'est clair, le gouvernement français a décidé de s'attaquer aux organisations syndicales en abusant de la justice. Donc moi, ce que je trouve aussi innommable, c'est que c'est aussi de l'argent public, la justice. On prend des heures de nos forces de l'ordre, de la police nationale, de la gendarmerie, pour nous intimider. Je pense que ces services-là ont d'autres choses à faire, plus graves dans le contexte actuel, que de s'attaquer à des syndicalistes de l'ONF.
Merci. Je peux demander d'où vous venez ?
Bonjour, de Bourgogne. De Bourgogne.
Oui, de Bourgogne aussi.
D'accord. Alors, pourquoi vous, personnellement, vous sentez le besoin de venir à Paris ?
Parce que moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'établissement. Et je trouve que c'est important, vu la situation aujourd'hui de notre établissement, de venir le crier haut et fort. Voilà, on est dans une situation financière difficile. Et brader les forêts, c'est franchement pas la meilleure solution.
Parce que ça, c'est quelque chose de nouveau, qu'on commence à vendre les forêts publiques.
On en parle de plus en plus.
D'accord, et vous sentez de...
C'est pas la vente des forêts, c'est qu'on nous demande de couper plus de bois que nécessaire pour faire de l'argent. D'accord. Voilà.
Vous sentez de plus en plus de pression ?
Bien sûr, complètement.
D'accord, merci. Voilà, alors Fred Bedel, tu es venu de assez loin quand même pour cette manif. C'est pas tous les jours qu'on voit plein de forestiers. Donc toi, tu fais partie de SNUFEN, syndicat à l'ONF. Explique-moi un peu pourquoi tu es venu ici.
Je suis venu ici comme je participe aux manifestations du SNUFEN solidaire depuis 2002 maintenant. Sans relâche, parce qu'on estime que malgré un rouleau compresseur qui veut privatiser l'ONF et industrialiser la gestion des forêts publiques, on a encore notre mot à dire et on peut gagner ce combat vital pour la forêt de nos enfants.
En fait, j'aimerais bien comprendre comment ça présente sur le terrain, enfin concrètement, pratiquement pour des forestiers de l'ONF, parce qu'on en parle beaucoup de ces pressions, mais ça veut dire quoi concrètement ?
Actuellement, il y a un discours qui se précise de plus en plus, qui consiste à dire d'abord, dans un premier temps, le marquage, ce qu'on appelle le martelage, le choix des arbres à couper pour faire une bonne sylviculture multifonctionnelle, favorable à l'économie, à l'écologie, au paysage, au social. Ce marquage et ce choix des arbres, il était assuré par des agents assermentés, fonctionnaires, indépendants des pressions de l'industrie. Actuellement, on est en train de nous forcer à basculer cette tâche-là vers les ouvriers de droit privé. Et comme par ailleurs, nos collègues ouvriers qui sont dans la lutte aujourd'hui avec nous, on a tendance à supprimer aussi des postes chez eux, on se rend compte que finalement, il n'y aura personne pour le faire. Et on nous annonce que bientôt, plus personne à l'ONF ne marquera les bois à couper. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mise sous concession des forêts publiques et la filière, à moyen ou court terme, se servira toute seule sans avoir le moindre contrôle sur les bois qu'on abat.
Mais je veux dire, derrière tout ça, il y a aussi une forte réduction du personnel, non, de l'ONF, en général, quoi.
En général, oui. C'est une des constantes de notre mouvement depuis 2002, hein, ça a commencé là. On nous a appliqué le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite depuis 2002, et non pas depuis 2010, comme dans d'autres secteurs. Et évidemment, ça finit par faire une lourde perte de plus de 20% des effectifs depuis le début des années 2000. Et surtout, c'est 30% de postes sur le terrain. C'est les agents, justement, qui font le contrôle, les gardiens de la forêt, c'est ces postes-là qu'on a supprimés en masse, et les ouvriers aussi, qu'on supprime en masse.
Moi, j'ai vu, il y avait un pancarte, plus de forestiers, moins de technocrates. C'est un peu ça, non ? Il y avait beaucoup de gens dans les bureaux.
Oui, là, on est en intersyndical. Il y a, par exemple, ici, le syndicat des cadres, dont je ne fais pas partie, bien que je sois cadre. Et qui finit par être d'accord avec nous sur le constat qu'on a augmenté de 10% l'effectif de cadre en supprimant plus de 30% d'effectifs de terrain. Et effectivement, quand on est à la tour de la direction générale à Paris, on n'a pas l'impression qu'il y ait trop de suppression de postes. Il y a des privatisations de postes, ça c'est clair, mais on a de plus en plus de postes d'encadrement ou, par exemple, des postes informatiques qui font tourner une machine sans réel objet forestier. Donc oui, on gonfle une superstructure et il y a de moins en moins de moyens sur le terrain.
Autre chose que j'ai entendu, c'est que, par exemple, il y a souvent des personnes personnelles de l'ONF qui doivent, par exemple, faire des estimations de la ressource dans telle ou telle région, sur un bassin ou sur un massif de forêt, et que ça, il y a de moins en moins de moyens pour faire ça. C'est quand même quelque chose qui est à la base de n'importe quelle gestion, de savoir ce dont on a, quoi, qu'on peut gérer pour les générations à venir. Il semble que ça, c'est un gros problème aussi.
Bah, c'est un sujet que je connais très bien et que je pratique depuis longtemps, c'est les inventaires forestiers. Le comptage, la qualification et la quantification de la ressource forestière, ça peut paraître fou, mais à l'ONF, on a encore une connaissance incomplète de la ressource. L'inventaire forestier national, rattaché à l'IGN maintenant, sort des chiffres, mais qui ne sont pas adaptés à notre échelle. Et donc, on s'amuse à balancer des choses comme on coupe seulement la moitié de la production naturelle, de l'accroissement naturel de la ressource, ce qui, selon moi, est faux, et ce qui, surtout, ne concerne pas du tout la forêt publique. Et le problème, c'est qu'on a besoin d'inventaire pour prouver qu'il y a surexploitation. Et actuellement, effectivement, les moyens consacrés à cette activité-là sont affaiblis, détournés, et on nous parle de plus en plus de grands inventaires à grande échelle sur un bassin d'approvisionnement et de plans d'extraction, en quelque sorte, de la ressource sur 3 ans. Alors que normalement, ce qui se fait, d'après le code forestier, c'est un plan de gestion sur 20 ans qui se base normalement sur un inventaire précis, pas un inventaire à grande échelle sur 15-20 forêts. Normalement, chaque forêt est gérée en équilibre sur la base d'un inventaire. Et ça, on est en train carrément de supprimer cette notion-là, donc la notion même de gestion durable.
Mais je veux dire également pour, par exemple, les histoires de dire qu'il y a assez de ressources pour, par exemple, ce nouveau secteur qui arrive, qui est le bois énergie, à grande échelle, quoi, industrielle. Il semble qu'à l'époque où, par exemple, le gouvernement de Sarkozy a approuvé, par exemple, le central de Gardanne, mais c'était basé sur des inventaires qui, par la suite, se sont avérés fausses. Donc ça, c'est aussi quelque chose... Ça met en route une politique, par exemple, dans le domaine de bois énergie, qui est très difficile à mettre d'arrêter une fois lancée, mais à base de données fausses, finalement.
Alors, à l'époque, ce qui était faux, c'était le chiffre d'accroissement des forêts. L'IFN, l'inventaire forestier national, l'a reconnu, l'erreur, mais finalement, on n'en a pas trop tenu compte. Et actuellement, il est presque vrai de dire qu'on coupe la moitié de ce qui pousse, mais c'est simplement parce qu'il y a un accroissement de surface forestière par la déprise agricole, qui continue, bien que ce soit moins vrai qu'avant, mais ça continue. Et en particulier dans le sud de la France, oui, il y a des accrus forestiers qui pour l'instant sont des petits bois. Et effectivement, on peut dire que là, on n'exploite pas l'accroissement. Mais c'est normal, quand un peuplement est en train de mûrir, on ne le rase pas. C'est un non-sens écologique et économique. Donc si c'est pour sous-valoriser des jeunes boisements, il faut arrêter tout de suite. Il faut laisser effectivement mûrir cette forêt française qui est encore jeune.
Alors... Toi, tu as fait partie avec d'autres dans le lancement de OSS Forêt qui était dans le Lorraine, enfin là-bas chez vous en gros. Hein. Et il me semble que c'était un peu la première région qui a lancé l'alerte le plus fortement, disons, au sein de l'ONF. Là, maintenant, on voit qu'il y a d'autres OSS Forêt dans le sud, mais il y a aussi maintenant Bourgogne-Franche-Comté, je crois. Donc, on dirait que cette conscience que ça va mal. 7 ans.
Au départ, moi en tant que simple syndicaliste forestier à l'ONF, j'ai simplement ouvert les yeux, mais avec beaucoup d'autres, sur le fait que nous on était mécontents de la politique de notre direction et du gouvernement, et que les associations étaient mécontentes, les usagers, etc. On a juste ouvert les yeux sur une grogne qui montait très forte. Actuellement, il y a aussi le collectif SOS Forêt Île-de-France qui est présent à la manif. Donc oui, il y a des grandes régions où la grogne se cristallise. L'intérêt du mouvement, parce qu'on me traite volontiers à l'ONF d'irresponsable pour avoir mis les problèmes de l'ONF sur la voie publique, mais la grogne, elle existe sans qu'il y ait un collectif SOS Forêt. L'intérêt du collectif SOS Forêt, c'est un espace de dialogue entre forestiers, associations, quelques représentants de la filière, encore trop peu nombreux, qui auraient un intérêt à développer des filières courtes, par exemple. Donc voilà, c'est un espace de dialogue et de combat intelligent.
C'est aussi, on pourrait dire, avec des simples citoyens qui, pour pour lesquels la forêt c'est quelque chose d'important et que voilà, ça concerne vraiment tout le monde parce que c'est le climat, c'est le paysage, c'est l'eau, c'est là où on peut balader. Enfin, c'est quelque chose qui devrait vraiment intéresser à tout le monde.
Voilà, on s'est aussi rendu compte que c'était pas en restant recroquevillé dans notre combat ONF qu'on pouvait faire prendre conscience aux politiques via les citoyens qu'il y avait quelque chose à faire sur la forêt française qui est juste sous-valorisée, qui est très très mal valorisée. Et donc il faut que les gens comprennent, et je pense que sur la forêt on peut comprendre qu'il y a besoin d'agents publics parce que c'est un problème transgénérationnel, on façonne la forêt de nos enfants, donc il y a des questions de long terme, il y a des questions d'économie, d'écologie, de sociale qui devraient interpeller tout le monde parce que effectivement les gens, même dans les régions les moins forestières, connaissent la forêt comme un lieu de ressourcement, comme un lieu essentiel pour eux. Mais ils ne mesurent pas à quel point ce qui se trame actuellement est dangereux pour la forêt.
Peut-être juste encore une question, c'est qu'il me semble qu'il y a tout un aspect qui n'est peut-être pas forcément tellement représenté dans cette manifestation à Paris, mais c'est extrêmement important, c'est tout ce qu'on peut appeler la filière bois. Parce que je veux dire, actuellement, on met de l'argent absolument considérable pour faire fonctionner ou pour permettre à faire fonctionner une centrale comme à Gardanne, à Biomasse, je veux dire, c'est des fonds publics énormes. Et en même temps, il y a une scierie qui ferme toutes les semaines, ou enfin, il y a des installations qui créent beaucoup plus d'emplois d'ailleurs, et qui peuvent vraiment être alliées avec vous quelque part pour quelque chose d'intelligent dans ce secteur.
Effectivement, la filière, par exemple, quand on a fait les assises de la forêt à Gardanne, nous a insultés parce qu'on était présentés comme des défenseurs de la nature pure et dure qui ne voulaient pas couper un bout de bois. Or, cette filière-là ne se rend pas compte qu'effectivement tous les fonds sont détournés au profit de quelques grosses unités qui n'animent pas du tout la vie économique locale. Et tout ça, ça découle de ce dont on a parlé tout à l'heure, les inventaires. C'est-à-dire qu'une politique forestière en France ne peut être basée que sur l'inventaire de la ressource. Parce que la ressource, un chêne, ça s'exploite au bout de 150-180 ans. Donc elle ne peut pas changer en 10 ans, la ressource. Donc quand notre direction et le gouvernement continuent à répéter « la filière a besoin de bois résineux, il faut planter des résineux ». Une fois, j'ai dit au patron de la Fédération nationale du bois « je veux bien planter du Douglas, mais vous me signez un contrat, vous me payez les bois et je vous les livre dans 60 ans, parce que c'est le temps que met un Douglas pour pousser et faire du bois d'œuvre, de construction ». Donc c'est aberrant. Un industriel n'a pas besoin de fantasmer sur une ressource, il a besoin de savoir la réalité de la ressource. Et la filière, elle est en train, en partie, elle rencontre de nombreux problèmes, mais en particulier celui-là, ce mensonge politique et cette absence de subvention en rapport avec la ressource réelle de nos forêts.
Et qui crée vraiment les emplois. J'ai entendu le chiffre que c'est 40 fois plus d'emplois créés dans le secteur style menuiserie, ébénisterie, scierie, compagnie, par rapport, par exemple, au bois énergie.
Oui, surtout à l'échelle de Gardanne. Encore des chaufferies communales avec un rendement intéressant, et puis donc un stockage, un soin de ne pas gaspiller la ressource, etc. Ça peut encore employer des gens. Mais effectivement, le plus gros gisement d'emploi, il est dans le bois d'œuvre. C'est aussi la seule façon réelle de séquestrer du CO2 et de régler le problème climatique. Donc tout sur le bois d'œuvre. En France, on n'a quasiment plus de seconde transformation du bois d'œuvre. C'est aberrant.
Exporté en Chine, beaucoup.
Voilà, donc la transformation se fait à l'heure. On dit souvent on est dans une situation de pays sous-développé, mais en matière de forêt. Alors que c'est encore, la filière forêt-bois, un secteur qui a presque autant d'emplois que la filière automobile. C'est une richesse nationale considérable et les gens ne se rendent pas compte de tout ce qui se passe.
Merci Fred. Alors, c'est Catherine, hein ?
Non ? Oui, c'est Catherine.
Voilà, donc toi, tu fais partie d'une sorte de groupe qui commence
oui,
à mettre en place un SOS
un
Forêt.
Nous avons créé un collectif sur la région Île-de-France suite à des coupes rases ou définitives que nous avions depuis de trop longtemps et qui commençaient à exaspérer le public. Donc, il y avait trop de visibilité sur ce problème-là. Donc il a été pris pour décision, et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, d'arrêter progressivement les coupes rases. Là, donc la gestion en futaie régulière est passée à une gestion en forêt irrégulière sur toute l'Île-de-France, en commençant prioritairement par les forêts les plus impactées par... enfin les forêts urbaines les plus densément peuplées. Donc voilà, nous sommes vraiment très heureux de cela, hein, puisqu'on a le passage de la futaie régulière en futaie irrégulière.
Alors, pour comprendre, donc là, c'est des personnes qui sont peut-être à l'ONF, mais aussi des personnes dont des associations.
Voilà, des associations.
Des citoyens, quoi.
Oui, les associations de citoyens, des associations sur la métropole Grand Paris, notamment, qui ont bien travaillé et qui ont, en concertation avec l'ONF, puisque c'est quand même un projet qui date, la gestion des forêts urbaines, c'est un projet qui date depuis un moment, hein, ce n'est pas nouveau. Et là, enfin, nous arrivons à la décision d'une nouvelle gouvernance pour l'ONF, donc au niveau de l'arrêt des coupes-rases, mais également à la mise en place d'une nouvelle gouvernance.
Et ça, c'est l'ONF, local, c'est pas local. National.
Oui. Là, pour l'instant, oui, c'est pour la région Île-de-France.
D'accord.
Donc, il y a vraiment un changement de positionnement et de gouvernance qui va aller vers plus de concertation avec les associations, l'arrêt des coupes-rases. L'ONF maîtrisera les chantiers puisqu'elle mettra à disposition le bois en bord de route. Hein, et c'est qu'une fois triées, par qualité, par essence, qu'elles seront mises en vente et que l'ONF contractera avec les transformateurs.
Donc, si je comprends bien, il y a maintenant une espèce de section locale, on pourrait dire, au Île-de-France de SOS Forêt.
Oui, et
vous allez créer un site, c'est ça ?
Mettre en place. Voilà, nous allons créer un site. Et puis, nous espérons un partenariat entre les associations et avec l'ONF pour arriver à une bonne gestion, une belle gestion, et à mettre en valeur nos belles forêts d'Île-de-France.
Super, merci.
Eh bien, nous, ce qui nous a... moi, j'avais déjà suivi ce qui se passait donc avec votre SOS Forêt du Sud, là. J'étais venue à Gardanne au colloque. Ça m'avait bien, bien intéressé. Et on a surtout décidé de réagir, nous, quand on a... Et de créer ce SOS Forêt. Ça faisait un moment qu'on y pensait. Hein. Mais je crois que ce qui a été le moteur, ça a été le Programme National pour la Forêt et du Bois, qui se redécline en région. Et en Bourgogne-Franche-Comté, ça devient un contrat avec des choses complètement délirantes dedans. De 7 500 000 m3, il faudrait qu'on rajoute encore en plus 1 300 000 à ces 7 millions de prélèvements annuels. Donc c'est énorme. Avec des plantations de Douglas à outrance, surtout en Bourgogne. Le Douglas est un excellent arbre pour la construction, mais pourquoi vouloir en mettre partout, quoi ? C'est juste du délire, quoi.
En fait, on remplace de plus en plus les forêts feuillues par les forêts Douglas, non ?
Ouais. En forêt de production est rapide, parce que le Douglas, c'est une essence qui pousse extrêmement vite et qui est récoltable assez vite. Hein. Et intéressante, même à des diamètres pas très importants, ça peut s'utiliser, quoi, je veux dire. Tout en sachant que les gros diamètres sont quand même les diamètres les plus intéressants, mais voilà...
C'est aussi un problème des énormes scieries, les installations qu'on met qui sont capables au fond de que travailler des troncs de petites dimensions, enfin moyennes dimensions, que les grosses scieries Canter et compagnie, ils ont du mal à scier vraiment des gros troncs.
C'est ce qui se passe aussi dans le Jura, nous. Les scieries, elles préfèrent scier des bois de diamètre 40-45 ou du billon. Le billon, c'est à peine plus petit, quoi. Plutôt que des gros bois. De toute façon, elles ont des fois plus l'outillage adapté pour scier du gros bois. Et on le voit bien, nous. Moi, je connais plus qu'une scierie qui scie du gros bois. Donc, et qui a une volonté de vouloir scier du gros bois. Donc, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que dans le Haut-Jura, on fait des forêts pour faire des gros bois. Quoi.
C'est des belles forêts, quand même.
C'est des belles forêts, oui, mais c'est l'idée, quoi. Je veux dire, la futaie jardinée, c'est ça, quoi. Donc... C'est ce site-là. Hein. Après, c'est vrai qu'en plaine, c'est la grosse cavalerie avec des plans bien rangés, bien alignés, bien rangés, faciles à exploiter. Et c'est ce qui intéresse les professionnels du bois. Hein. De toute façon, le programme national de la forêt et du bois, c'est les chiffres, on s'est penché un petit peu dessus. On ne sait pas d'où ces chiffres sortent. Et on sent vraiment que c'est fait uniquement pour la filière bois. Hein.
Mais donc, dans les forêts, ça veut dire que ce n'est pas uniquement des personnels d'ONF. Il y a d'autres personnes qui s'inquiètent, en fait. Et vous faites une sorte d'alliance.
Bon, il est vrai qu'au départ, nous, pour la création de l'antenne, on va dire, franc-comtoise et bourguignonne, surtout franc-comtoise, il y a beaucoup de forestiers qui sont dans cette... Dans ce collectif, mais également de la forêt privée. Et nous, ce qu'on voudrait vraiment, c'est que ce soit la société civile qui s'empare de ce problème. Et justement, on a fait une action le 5 décembre en lien avec ce programme national de la forêt et du bois qui devait donc être signé et qui n'a d'ailleurs pas été signé à cause des problèmes que ça occasionne. Ça est reporté en janvier. Et justement, on a pu rencontrer des gens de la société civile qui s'inquiètent de ça, des coupes rases, même en Jura, ça existe. Hein. Et du coup, c'est bien, quoi. Ça, c'est bien. Et nous, ce qu'on veut, et il y a d'ailleurs une association qui nous a rejoints, forte d'une centaine d'adhérents. Donc, on est ravis d'avoir ces gens-là avec nous. Et plus on sera nombreux, plus on sera écoutés. Hein.
Est-ce que c'était l'action que vous avez menée, en fait ?
Eh bien, simplement une manifestation avec les Bourguignons qui sont avec l'association Adré-Morvan, d'autres associations dont j'ai appartenu le nom, mais ont vraiment plaidé la cause de la forêt bourguignonne qui est en train d'être dévastée. Quoi. Et il y avait donc, c'était simplement être devant le conseil régional lorsque les gens qui siégeaient lors de ce vote-là nous voient et sont interpellés aussi par l'action. Et il y avait un cercueil aussi. enfin, il y avait pas, ils avaient amené beaucoup de choses, ces bourguignons, et c'était très chouette.
La bagarre, elle va continuer partout, dans les UT, dans les agences, avec les ouvriers. Et il va falloir bloquer l'établissement, parce que je pense que cette manif, c'est que le début d'une chose très importante. On n'est pas là pour faire du pognon, on est là pour gérer de façon durable l'environnement et la forêt publique. Bonne lutte à tous, et on va continuer la bagarre, merci.
C'était « À la défense des forêts publiques ». Une émission de Radio Zinzine.